Donc, on arrive vers la fin de l'épître de Jacques. Le pasteur à Jérusalem, il avait de grandes charges, de grandes responsabilités. Et nous voyons surtout son souci de bien mettre en place des relations pour le peuple de Dieu. Et c'était un homme de prière. Le frère de Jésus-Christ était un homme qui aimait prier. Eusèbe, l'historien juif, le raconte qu'il avait des genoux comme ceux d'un chameau. Tellement ils étaient usés de se mettre à genoux, à plier, à intercéder, à plaider pour le pardon et la grâce sur le peuple de Dieu. Et je pense que c'est ainsi que Jésus-Christ s'est manifesté à Jérusalem, dans son église, parce que son peuple, ce n'était pas la chose du peuple, c'était Dieu lui-même qui est intervenu, qui a agi, qui a créé, qui a fortifié. Et ça, aujourd'hui, ce matin, c'est le dernier mot de l'apôtre Jacques envers nous, c'est comment apporter nos problèmes, nos difficultés, nos vies entières à Dieu, pour expérimenter cette grâce rafraîchissante, merci à Clé, de Jésus-Christ, ce salut, cette personne, au quotidien, dans nos vies. Trois choses qui se relèvent de ce texte. Quand prier? Comment prier? Et pourquoi prier? Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre le texte, ce que dit Jacques, en chapitre 5 et le verset 13 et suivant. Donc, comment prier pour vos problèmes? Premièrement, pour ceux qui souffrent. Aclin nous l'a rappelé ce matin. La vie est faite des fois où on souffre et Dieu en est conscient. Il ne nous oublie pas, au contraire, il veille sur nous pour que cette souffrance agisse pour notre bien et qu'on trouve en Dieu une consolation, une grâce qui dépasse les souffrances, qui porte dans les souffrances et qu'on trouve satisfaction, joie et bonheur, non pas dans les circonstances qui sont passagères, aléatoires, qui sont, au fond, pas suffisamment fortes, parce que nous sommes créés pour Dieu, pour l'infini, pour être aimés éternellement et infiniment. La souffrance, donc, est un rappel. Parfois, on peut souffrir, et cette souffrance est une occasion de nous rappeler de mettre notre consolation, notre joie, notre paix, pas dans des choses éphémères, passagères, créées, mais dans celui qui agit, qui fait. De deux, et il y a plein de promesses à ce propos, Aclin nous en a rappelé plus juste ce matin, mais peut-être que ce point pour nous rafraîchir, nous rappeler, dans ma détresse, c'est l'Éternel que j'ai crié et il m'a répondu. D'accord? Si on souffre ce matin, si on souffre dans la vie, ce que Dieu souhaite, ce n'est pas la souffrance, mais qu'on outrepasse, qu'on dépasse ses limites et qu'on trouve un Dieu qui est là, un Dieu qui soutient, un Dieu qui donne joie et force, qui répond, qui est vivant. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. C'est Dieu. C'est Dieu qui renouvelle. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui empêche qu'on ne soit fatigué. L'apôtre Pierre disait, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et ça se vit. On vient, on est fatigué, on est alourdi, on est un peu abîmé, on se pose devant Dieu Et il y a cet échange qui prend place où je lui remets mes fardeaux, mes difficultés, et lui, il me remet sa grâce, sa bonté, son amour, sa force, sa présence, sa joie, sa paix. Quand? Comment? Il le fait. Il est Dieu. Il nous invite donc à venir à lui pour mieux vivre, pour vivre pleinement. Et s'il y a de la souffrance, et il y en a, il y en aura. C'est pour trouver un Dieu qui, quelles que soient les circonstances, est présent, transforme, est à l'œuvre et se sert de ces circonstances, pas pour alourdir, mais pour que toi tu surmontes, tu vives, tu dépasses, tu vis, parce qu'un jour tu vivras éternellement avec lui. Et il te prépare, il te façonne à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Si quelqu'un se réjouit qu'on le célèbre, quand tout va bien, il nous invite à ne pas simplement dire « Oui, merci, ça va. » Et on oublie. Parfois, c'est plus difficile à gérer la réussite que la souffrance. Mais un Dieu qui veut marcher à ton côté, avec toi, pour te bénir, faire partie de ta vie comme un ami, comme le sauveur, et simplement que ce vis-à-vis soit lui, qui reflète, qui donne, que quand tu es dans la joie, il t'en donne davantage. Que tu aies pas simplement une joie éphémère, mais une joie parce qu'il est là. Et on sait qu'il est là, qu'il veille, qu'il bénit, qu'il fortifie. Et qui te sert. Donc, une joie qui s'amplifie à cause de la présence de Dieu. Il est intéressant, quand les empereurs romains voulaient comprendre l'Église, ils ont pris note, ils ont reconnu, selon Pline, un gouverneur romain qui a écrit à Trajan l'empereur, il se lève avant le lever du jour et il chante des cantiques. C'est à l'an 111. Ils sont déjà percés par Néron qui a détruit Rome et les chrétiens qui a cherché. Ils sont passés par Domitien lors de l'Apocalypse, vers l'an 92. Mais les chrétiens chantaient. Ils avaient de quoi parce qu'il y avait un Dieu qui les réjouissait, qui les animait, qui était présent. On peut donc célébrer Dieu quand ça va bien, et on peut aussi célébrer Dieu dans des difficultés. De trois, si quelqu'un est malade, et maintenant, peut-être que ce sont des circonstances que nous allons voir, la maladie, parce que pour l'instant, on parle du spirituel, mais là, on entre dans tout l'être. Parce que notre esprit et état d'âme a une influence énorme et importante aussi sur notre bien-être physique. Proverbe a dit, celui qui a le cœur en joie a un bon remède. Quand il n'y a rien de meilleur si on passe par la souffrance ou par la maladie, d'avoir le cœur en paix avec son Dieu et de connaître sa présence, son amour. Mais ce n'est pas toujours évident. Karl Menninger avait écrit le livre « Qu'est-ce qui est jamais advenu du péché ?» Il a constaté que le mot « péché » a disparu de notre vocabulaire contemporain. Comme si on comprenait plus, on ne voulait plus en parler. Mais il constatait qu'en même temps, les hôpitaux et les lits des hôpitaux étaient remplis, débordants, de malades. De malades qui, pour lui, on pouvait tracer, on pouvait revenir pour constater que la maladie était réelle, mais souvent rattachée à des situations vécues, d'état d'âme des personnes qui gérait les stress, qui gérait la vie. Jésus avait dit, quand il a envoyé ses apôtres, chassez les esprits, guérissez les malades. Jésus, il a proclamé la bonne nouvelle dans tous les royaumes, dans tous les villages, mais en même temps, il a guéri. Jésus a reconnu cette implication entre le fait que nous soyons et esprit et corps, et que les deux ensemble, c'est de bien vivre. Donc, on cherche, on prend le temps de venir avec lui, vers lui, on se décharge devant lui, il nous relève, il nous fortifie. Mais si on tombe, si on porte des fardeaux qui sont lourds, si on est brisé ou apesanté par les difficultés de la vie, il nous invite aussi à faire appel à des frères, à des personnes mûres dans la foi qui cherchent à obéir, à suivre le Seigneur Jésus-Christ, les anciens. Nous sommes bénis d'avoir ces hommes qui veulent bien servir, qui veulent bien aussi porter, vous porter devant le trône de Dieu pour demander grâce et force et pardon et bénédiction. C'est énorme. C'est d'avoir comme quelqu'un comme qui ressemble à Jésus, qui suit Jésus, qui veut aussi faire l'œuvre de Jésus, ou permettre que Jésus fasse son œuvre parmi nous. Donc, plusieurs choses que ces frères vont faire. Qu'il prie, qu'il oigne de l'huile, et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. J'aimerais prendre un instant pour essayer d'explorer ces quelques notions avec vous. Qu'est-ce qu'un autre peut faire pour toi? Comment quelqu'un peut-il venir dans ma vie, dans ta vie, pour bénir? Aider à faire partie de ce processus de guérison, de nous décharger, de nous aider, de nous épauler, de pardonner. Donc, qu'il prie, qu'il applique de l'huile. L'huile, dans la Bible, était surtout symbolique pour la présence de Dieu, Dieu qui oigne son peuple. C'est façon de demander une grâce particulière de la présence d'un Dieu aimant, miséricordieux, créateur, qui veut bénir, relever et pardonner. Et donc, on oint d'huile, façon de dire que Dieu vienne, qu'il soit présent, qu'il se manifeste de sa manière particulière sur cette vie. Et on le met de côté, cette personne, vers Dieu. Qu'il le bénisse, qu'il le guérisse, qu'il le relève, qu'il le fortifie. La prière de foi, on entre maintenant dans la partie l'homme qui intervient, mais c'est Dieu. Si c'est l'ancien qui prie, il ne contrôle pas un Dieu qui répond, qui exauce. Une prière reste une prière. C'est une demande, c'est une requête vers un Dieu vivant, gracieux, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ pour bénir et agir et aimer et relever. Mais ça reste une prière et non pas une commande. Je ne peux commander Dieu. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma place. Mais je peux lui demander. Je peux obéir. Et ça, par compassion et miséricorde, j'agis comme Jésus-Christ me le demande en le suivant, lui qui s'est occupé et du pardon et aussi de la guérison et de la bonne nouvelle et du bien-être physique. Qu'on agit par compassion pour toute la personne. Une prière de foi, donc, est une demande par une commande. Ce n'est pas l'ancien qui a ce pouvoir d'agir, c'est Dieu qui a le pouvoir. Mais l'ancien, ou la personne mûre, ou l'ami, comme nous verrons dans un instant, peut intervenir et doit intervenir, et ça avec foi, non pas foi en lui-même, de sa capacité de guérir, ou de sa capacité personnelle de disperser ou d'agir, ou de, mais plutôt une foi humble en un Dieu vivant, gracieux, qui aime bénir. Et de nous rappeler de ce Dieu, de qui il est, de sa personne, de s'imprégner et de demander, on met de côté la personne, et puis par la foi, on essaie, on demande que Dieu vienne, relève et qu'il le fortifie. Le Seigneur Jésus dans le jardin, il a demandé à son Père, « Si tu veux, ôte de moi cette coupe. » Mais le « si » de Jésus-Christ implique que Jésus s'est soumis à la volonté de son Père. L'apôtre Paul avait dit, « J'ai laissé Trophime malade à Milette. » L'apôtre Paul avait demandé trois fois d'ôter une épine de la chair, peut-être un problème de vue. L'église de Philippe avait envoyé Épaphrodite à Rome à s'occuper des besoins de Paul, prisonnier. Il est tombé malade, gravement malade. Paul, prisonnier, l'envoyé qui tombe presque à la mort. Et donc, il renvoie chez lui, à Philippe, avec l'explication qu'il, tout en le remerciant, qu'il peut faire qu'il rentre. Est-ce que c'était une manque de foi? Je ne pense pas. Il y a parfois simplement des occasions où on se remet à Dieu et on bénit Dieu. Mais on vient, on se tourne le regard vers un Dieu qui est bon, un Dieu aimant, un Dieu de Jésus-Christ qui est venu pour guérir, pour avoir compassion, pour bénir. Et puis on laisse, on met cette personne à part pour Dieu, pour que Dieu lui-même bénisse, guérisse, et puis on prie. Mais c'est Dieu qui relèvera, ce n'est pas l'ancien. C'est Dieu qui relèvera. Ce qui est écrit dans le verset qui suivra, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La foi est en Dieu, pas dans ma foi. Et c'est le Seigneur qui relève, pas moi. Et il continue, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Le lien entre le physique, le corporel, le bien-être, et l'intérieur, le spirituel, nous sommes un être complet et Dieu nous aime complètement. Et la personne qui prie a un accès remarquable à un Dieu bienfaisant, guérissant, qui sauve, qui délivre, qui donne vie de l'intérieur pour passer à l'extérieur, pour bien vivre. Et c'est ça qu'on veut. Et pour bien vivre, même au-delà des circonstances et des problèmes. Et Jacques nous rappelle que ses péchés lui seront pardonnés. Il nous l'a déjà dit, nous trébuchons tous à maintes façons. Nous sommes tous concernés donc par le fait que nos péchés soient pardonnés. Moi en premier lieu. Ils lui seront pardonnés. Que Dieu nous aide à nous ouvrir, à pouvoir se pardonner, s'offrir le pardon, à pouvoir aussi vivre avec des personnes imparfaites, à pouvoir donc s'aimer comme le Christ nous a aimés, il s'est donné pour nous, pour pouvoir pardonner. et ça lui a coûté. Mais quand on y entre, c'est ici le frère de Jésus-Christ, quand on y entre, on trouve une puissance d'un sauveur, un Dieu qui aime, un Dieu qui aime à un tel point que rien ne puisse l'arrêter. Aucun péché, aucun obstacle, pourvu qu'on soit prêt à reconnaître, admettre qu'on a besoin de cette grâce et de ce pardon. Et Dieu pardonne. Et entre nous, on s'offre cet espace et cette possibilité d'être humain et d'être un instrument dans la vie de l'autre. D'aimer l'autre, d'accepter l'autre, de permettre que l'autre chemine, grandisse, prenne sa route, tombe, ne soit pas parfait, on le supporte et on l'accompagne. Et béni soit Dieu pour les hommes et les femmes mûrs qui ressemblent à Jésus-Christ, qui peuvent nous accompagner dans ces démarches, pour aider à trouver ce pardon, à pardonner les uns les autres quotidiennement, à vivre cette grâce et cet amour complète, est profond de Jésus qui accueille l'autre, qui aime l'autre tel qu'il est et qui va plus loin pour accompagner l'autre à ressembler à Jésus-Christ parce que c'est pour cela que Dieu le destine. Et c'est énorme. Parce que c'est de bien vivre, quelle que soit la circonstance ou la situation de la vie. Parce que c'est Dieu lui-même qui agit au fond et d'une manière remarquable, belle, splendide, discrète, mais ô combien puissant, gracieux, généreux. La prière, c'est pas là où Jacques termine, c'est la troisième fois qu'il parle de la prière dans son épître. Parce que c'est un moyen d'inclure Dieu. Tout autre moyen peut être humain. Mais quand on prie, ça permet que Dieu lui-même agit, se manifeste, se révèle, guérit et bénit. On a toute raison donc de mettre de côté du temps pour le chercher personnellement, pour lui permettre de te renouveler. Que tu te décharges sur lui, que lui-même il vienne, il s'explique, il te parle, que lui-même parfois il nous interpelle, il nous rappelle, qu'on ait un moment de calme, un moment à part, pour lutter avec sa propre âme, pour que ce Dieu bienfaisant, salutaire, te relève, te façonne, te prépare à vivre heureux, pleinement, bien, dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. À mettre donc de côté ce temps pour le chercher. De deux, comment prier? Comment prier? La prière de la foi, je n'en ai pas parlé. Et puis, il ajoute dans le verset 15, la prière de foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Verset 16. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. S'il y a des hommes qui prient pour vous, des hommes qui viennent ou des personnes mûres dans votre vie, qui vous aime, qui vous accompagne, qui peut vous écouter, prier pour vous, c'est une très grande bénédiction, c'est ça qu'il veut dire. Mais aussi, il dit, priez les uns pour les autres. La prière n'est pas que pour les anciens, mais la prière est pour les anciens, pour bénir, guérir, restaurer. Mais pas que pour les anciens, c'est aussi pour chacun. Priez les uns pour les autres. D'avoir une amie, un ami avec qui prier, permet que cette bienfaisance de Dieu vient, que les fardeaux qui accablent soient ôtés, portés, supportés. Et encore, c'est une grande bénédiction. Quelqu'un a appelé donc l'intercession, le fait de prier pour l'autre, son prochain, comme l'amour à genoux. Confesser. Pardon, je reviens. Je ne reviens pas. On avance. Voilà. Donc, confesser, c'est deux mots. C'est un mot composé en grec, c'est ex homologeo, logeo. C'est de dire la même chose que Dieu. De dire la même chose que mon ami. Mon ami me connaît, vous me connaissez. Si vous avez le privilège de marcher un peu ensemble, c'est le fait de vous connaître un petit peu, de connaître parfois les hauts, les bas, les points forts, ou aussi les déficiences, les failles des uns et des autres. Et Dieu est à l'œuvre. Et quand on laisse cet espace et qu'on permet à Dieu d'agir dans par sa parole, par sa puissance, par son esprit, Dieu change, Dieu transforme avec patience et persévérance. Mais ça veut dire qu'on reconnaît, c'est ça le mot confesser, c'est de reconnaître, je reconnais tel que je suis. Ce n'est pas toujours évident. Je reconnais aussi que je t'ai blessé. Ce n'est pas toujours évident de le dire. Je reconnais que je me suis emporté ou j'ai dû faire mal, ou Jésus a même dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier d'abord avec ton frère et puis après, reviens. Dépose ton offrande à l'autel. Quelque part, Dieu veut, il nous tient responsables aussi, il veut que nous apprenions les uns les autres de nous pardonner, de donner l'espace, de pouvoir reconnaître chez l'autre et chez soi, pas toujours évident, face à l'autre, que nous sommes humains, faillibles, rebelles, pécheurs, et moi aussi. Et d'arriver quelque part à l'entendre, d'arriver à l'entendre que l'autre est aussi imparfait, d'arriver aussi à pardonner, à aimer l'autre, peut-être même de lui dire les promesses, la beauté de ce que cette personne représente. Combien de fois j'ai-t-il béni par les paroles de vous-même, de certains qui disent ben, « ça m'a fait du bien » ou « ce moment de prière, j'ai été encouragé, merci pour ce temps ». Et on ne se le dit pas toujours, on ne dit pas « zut, j'ai attendu que ça qu'on le dise ». Mais c'est vrai. Le fait d'être ensemble, le fait de voyager, de faire ce cheminement ensemble, le fait d'apprendre ensemble, le fait de s'exhorter, de vivre, de porter les fardeaux les uns les autres, est énorme. Une capacité qui est remarquable et qui fait avancer énormément l'œuvre de Jésus-Christ au profond et réellement avec grâce et bonté et amour et paix dans la vie de l'autre. Et c'est énorme. Et c'est ça que Jacques nous dit ici. Devant l'un et l'autre, de cultiver cette capacité, cette sensibilité de demander. Comment tu vas? Et d'écouter. Et puis d'apporter, peut-être dans son cœur, chez soi, devant le trône de grâce, cette autre personne. Ou, comment tu vas? Est-ce que tu peux me pardonner. Je sais que j'ai dû mal me comporter ou dire quelque chose qui a pu t'offusquer. Donc, j'étais maladroit ou je me suis planté. Je te demande pardon. À le dire, à le faire, apporte guérison dans le cœur de l'autre, dans la relation des autres, dans la communauté de plusieurs personnes et familles pour permettre qu'on vive par la grâce et l'amour ensemble. Et la prière fervente du juste, c'est ce qu'il dit tout de suite après. Priez les uns pour les autres, pardonnez les uns les autres, confessez, reconnaissez vos fautes les uns aux autres. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui ne fait pas de faute. Et puis, la prière fervente d'une juste a une grande efficacité. Le fait de prier les uns pour les autres permet qu'on vive, on ne soit pas saboté. C'est une il y a un ennemi, il y a une bataille spirituelle pour ta vie. Tu es haï, tu as un ennemi. Mais si tu as des alliés, c'est énorme. Et si tu as des alliés sur qui tu peux compter, ils savent t'apporter devant Dieu, c'est énorme. Et la prière fervente d'une personne qui veut marcher dans les voies de Dieu a une grande efficacité. Fait beaucoup de bien pour toi dans les manières que Dieu, lui seul, sait. Lui, il peut intervenir. Lui, il peut agir. Lui, il peut guérir. Lui, il peut diriger. Lui, il peut bénir. C'est lui qui prend cette prière du juste et qui agit. Mais que ce soit une prière fervente. Ce n'est pas la prière « Seigneur, tu connais tous mes problèmes. Seigneur, tu connais, tu sais. Oh, combien c'est difficile, Seigneur. » Ça, ce n'est pas une prière qui ajoute de l'énergie, c'est une prière qui alourdit et qui pèse. Et on n'a pas tellement envie de vraiment lever les mains vers Dieu avec tout ça. Une prière fervente. Et le mot, pardon, c'était là, c'est energeio, d'où on a le mot énergie, mais c'est une énergie spirituelle, ce n'est pas une énergie simplement parce que je parle plus fort. Dieu il peut m'entendre si je parle même pas trop fort. Mais c'est une énergie spirituelle qui, aux causes de l'autre et pour l'autre, on intervient. Il y a des situations difficiles, désagréable, mortel, pour toi, pour ta famille. Mais il y a une puissance qui est à la hauteur pour y aller, pour contrecarrer. Et il faut mettre à l'œuvre. Jacques a dit, chapitre 4, si tu ne pries pas, tu ne l'as pas. Donc, on prie, et on peut prier les uns pour les autres, afin que Dieu agisse. Il dit que c'est puissant. C'est très efficace dans l'originel. D'une grande efficacité. Alors, voulez-vous une vie efficace? Alors, ici, c'est comme ça que parfois, j'ai l'impression qu'on vit. Si ça arrive, peut-être que ça va aller. Mais Dieu nous propose de vivre autrement, de mettre un Dieu puissant à l'œuvre dans ta vie pour que ce que tu fais serve, compte, que ta vie soit utile, bénie pour Dieu, pour son royaume et pour la vie des autres. Bon. Il donne l'illustration de Élie. Injuste et nous-mêmes qui devons vivre ou essayons de vivre à plaire à Christ. Le faire, ta vie deviendra puissante, utile, efficace, d'une grande efficacité, ce qui est écrit par Jacques, le frère de Jésus, le pasteur de l'église de Jérusalem. Le bras du Seigneur n'est certainement pas trop court pour sauver, ni son oreille trop terne à entendre, mais vos iniquités vous ont séparé de votre Dieu. Isaïe 59, versets 1 et 2. Il y a maintes fois les rappels que Dieu veut que nous marchions avec lui. Le Seigneur Jésus, Hébreux nous dit, a été entendu quand il a supplié son Père de lui ôter la supplice de la mort. Avec larmes, il a prié. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle, il dit, c'est à cause de sa piété qu'il fut entendu. Hébreux 4, 5, verset 7. Pas à cause de ses larmes uniquement, pas à cause de ses supplications, mais à cause de sa vie, à cause de son obéissance. Une vie, la prière fervente, énergisante, du juste, a une grande, très grande efficacité. C'est cette vie-là qui est utile dans la vie des frères et sœurs, dans la vie des autres. Et dernièrement, qui peut prier? Comme nous venons de voir, le juste, mais pas que Élie, pas que Jésus. Jésus prie, il intercède à la droite de Dieu pour nous, pour toi. Mais il relève, il donne à chacun ce pouvoir de pouvoir intercéder, de pouvoir prier pour son prochain, pour sa famille, les uns pour les autres. Élie était tout de même affligé, découragé. Après la bataille avec Ahab sur Mont Carmel. Donc Élie avait une nature comme vous, comme moi. Mais Dieu se sert des personnes ordinaires parce que c'est Dieu qui est puissant. Il suffit qu'on apprenne à lui prier. Pardon. Dernière phrase. Et nous aurons terminé. La toute dernière verset, celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. C'est-à-dire que on peut être sur la falaise, au bord d'une précipice, on ne sait pas, parfois on le sait, et parfois c'est le frère ou la sœur qui le voit, et celui qui sait, prend soin de l'autre par amour et par grâce, et s'intéresse à la vie de l'autre, et de par sa relation aussi, il peut sauver l'autre de pouvoir faire de tomber, de plonger à sa perte, à sa mort spirituelle, ou même en entraînant d'autres avec lui. Il nous dit donc, le fait d'avoir des personnes dans ta vie est énorme. Le fait d'avoir un ami, une amie, qui prie pour toi, qui te connaît, qui connaît tes fardeaux, tes difficultés, tes challenges, qui te soutient, qui te protège, dans la prière, qui prie avec toi ou pour toi, est énorme. Parce que la prière permet à Dieu d'agir, de venir bénir guérir, se décharger, renouveler. Qui as-tu dans ta vie? Qui as-tu dans ta vie qui pourrait t'écouter? Apprendre à connaître tes fardeaux, parfois même les jalons, les précipices. Qui est sur la même route ou sur ta route que tu connais et qui pourrait aussi être pour toi la personne que Dieu veut agir, en qui Dieu veut agir. La personne pour qui Dieu veut que tu pries, que tu aies une amitié, pour bénir, guérir, fortifier, pour que cette personne achève, aille jusqu'au bout avec le Christ, parachève sa vie, qu'il arrive à être ce que le Christ veut qu'il soit. C'est énorme. Mais ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Et c'est là la toute dernière phrase. Il sauvera une âme de la mort, cruciale, capitale, éternelle, majestueux, grandiose, et couvrira une foule de péchés. C'est une citation de Proverbes, chapitre 10 et le verset 12, qui dit que la haine et que la calomnie qui répand les problèmes devant les autres, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Un ami qui peut te connaître, partager ta vie, écouter, porter avec toi, prier avec toi, protéger ta vie, est un ami qui t'aime, qui manifeste cet amour de Christ pour bénir, guérir, fortifier, protéger. Mais ce n'est pas toujours évident. Et on peut mettre les pieds dans le plat en essayant d'aimer l'autre, en essayant d'être un ami, en essayant de porter des fardeaux. Mais c'est comme ça qu'on apprend. En même temps, c'est cette personne surtout qui cherche pour elle-même de vivre une vie de juste, une vie qui se place devant Dieu pour l'écouter, qui est une personne de prière pour elle-même d'abord, qui lutte d'abord avec elle-même pour son propre cœur, pour sa propre âme, pour qu'elle-même, elle cherche, elle vive, et elle sera après patiente, capable avec d'autres de pouvoir intervenir, t'aider, t'écouter, prier. Dans l'épître de Jacques, donc, voici la puissance, voici son secret, voici ce qui a fait vivre l'Église de Jérusalem. Voici ce qui les a fait traverser dans quelques années. L'armée romaine va descendre sur Jérusalem et tout disséminer. Voici ce qui a fait cette puissance qu'ils continuent, qu'ils persévèrent, qu'ils agissent, qu'ils aiment leurs ennemis, qu'ils s'occupent dans les siècles des malades et des orphelins abandonnés dans l'Empire romain. Et que l'Église a grandi, malgré tout. Et c'est ça que Jacques savait et voulait nous dire. Et donc nous voyons que pour lui, il y avait une grande différence entre les situations à l'Église de Jérusalem et là où Dieu voulait les conduire. L'instabilité, des relations qui, de parti pris, d'ambition personnelle, chapitre 1, de juger l'autre, de critiquer, de se plaindre de l'autre, de prendre, même de tuer, au lieu de vivre par la puissance de Dieu. Il dit qu'il y a une différence et des choix à faire. Et Dieu met sa grâce, par la prière personnelle et communautaire, à notre disposition pour aimer, agir, grandir, se développer et croître. Heureux ceux qui entendent et qui mettent en pratique, chacun dit, chapitre 1. Il veut que vous soyez profondément heureux. Et c'est pourquoi il a écrit ces paroles de son épître, le pasteur de Jérusalem, le frère de Jésus, pour lancer, pour poser, pour faire avancer. Ils l'ont fait. Et c'est à nous maintenant, notre tour, de prendre le relève, de prendre le défi, de savoir le vivre et de savoir le donner aux autres. Père éternel, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ et pour cet héritage énorme et merveilleux que tu nous donnes, de vivre des relations pacifiques et justes et bienfaisantes. Et nous voulons te remercier. Nous voulons aussi, quelque part, tendre vers ou croître vers une communauté qui se reconnaît, pas d'être arrivé, mais plutôt les personnes faillibles en marche, où les uns avec les autres, on peut trouver en Jésus-Christ, par ta présence, par ton salut, le plus grand bien. Et donc nous tournons vers toi, que toi-même, tu prennes cette place, que nous-mêmes, en tant que ton peuple, que nous apprenions tout simplement nous placer individuellement, avec des amis, des trios, le conseil de prière qui aura lieu vendredi prochain, en visite ou en privé, personnellement, de prier les uns pour les autres, c'est énorme. Je te prie aussi, Père, que ta parole soit efficace parmi nous pour créer en nous un peuple juste, des relations justes et bienfaisantes, l'un auprès de l'autre, pour que nous y arrivions tous devant ton trône, parce que c'est pour cela que tu nous destines encore à ce bonheur énorme et éternel. Nous voulons donc te remercier pour le privilège d'être en communion avec toi, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos circonstances. Apprends-nous donc à marcher avec toi, à parler avec toi à tout moment et aussi à te chercher particulièrement, seul, avec des amis, pour te laisser agir, bénir, guérir. Et aussi d'être des instruments de vie efficace et utile pour ce monde. Ceci, nous te le prions. Au nom de Christ, qui lui-même, dans le jardin de Gethsémané et actuellement auprès de ton trône, il intercède, il prie.